RFI, 9h à Paris, 7h en temps universel.
RFI Matin.
L'heure d'un nouveau journal avec vous, Sophie Pouzrat.
Et à la une, Julien. Donald Trump veut continuer à travailler avec Moscou et Kiev pour mettre fin au conflit. Déclaration faite après celle de Vladimir Poutine. Le président russe dit vouloir reprendre les discussions directes avec l'Ukraine dès jeudi à Istanbul, sans réagir à l'appel au cessez-le-feu de 30 jours lancé hier par les Occidentaux. Un autre cessez-le-feu entré en vigueur hier mais fragile entre l'Inde et le Pakistan après une violente escalade militaire. On fera le point sur les prochaines étapes de cette trêve. Et puis au Mans accueille le nouveau round de pourparlers entre Washington et Téhéran sur le nucléaire iranien aujourd'hui.
Vladimir Poutine dit vouloir discuter directement avec Kiev.
Le président russe s'est exprimé dans la nuit. Il n'a pas répondu à l'appel au cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours réclamé par les alliés de Kiev hier. Mais il a proposé des pourparlers directs avec l'Ukraine, avançant même la date et le lieu jeudi prochain à Istanbul, là où les dernières négociations directes avaient pris fin entre les deux pays en 2022. Du côté des alliés de l'Ukraine, les premières réactions arrivent. Le président américain Donald Trump dit vouloir continuer à travailler avec Kiev et Moscou pour mettre fin au conflit. Son homologue français Emmanuel Macron estime de son côté que c'est un premier mouvement, mais qu'il n'est pas suffisant. Jean-Didier Revoin, vous êtes notre correspondant à Moscou. Cette contre-proposition russe, est-ce qu'elle est surprenante ?
Écoutez, non, pas vraiment. La Russie était dans l'obligation de réagir à l'ultimatum de cessez-le-feu que lui ont lancé Kiev et ses alliés occidentaux. Et à défaut d'accepter de faire taire ses canons dès lundi, Vladimir Poutine fait une proposition que l'on n'attendait pas forcément, en invitant Kiev à des pourparlers directs dès jeudi à Istanbul. Il a une fois encore répété qu'il était prêt à négocier sans condition préalable, soulignant que sa proposition était sur la table et que la réponse dépendait désormais du pouvoir ukrainien. Reste que les positions des partis restent très éloignées. On a d'un côté Kiev et ses alliés, qui réclament depuis plusieurs mois maintenant un arrêt des combats, et de l'autre, Moscou, qui veut négocier une solution de long terme sans pour autant interrompre son effort de guerre jusqu'à ce qu'un accord puisse intervenir. Des positions qui ne semblent pas converger et laissent la Russie en position de force sur le champ de bataille, raison pour laquelle cette nouvelle proposition de Vladimir Poutine lui permet de faire porter à l'autre camp la responsabilité d'un échec éventuel.
Les précisions de Jean-Didier Revoin depuis Moscou.
Le cessez-le-feu fragile entre le Pakistan et l'Inde après une brutale escalade militaire.
Il est entré en vigueur hier. Le président américain Donald Trump l'avait annoncé sur son réseau social avant que l'information ne soit confirmée au Pakistan et en Inde par les ministres des Affaires étrangères. Si les deux camps se sont accusés mutuellement d'avoir brisé la trêve, elle semble tenir pour l'instant. Depuis Islamabad, Sonia Ghezali fait le point sur les prochaines étapes.
Le premier enjeu est de faire tenir ce cessez-le-feu. Dans la nuit, les autorités pakistanaises ont réaffirmé leur détermination à l'appliquer, je cite fidèlement. Déclaration après qu'il y a eu hier soir des incidents sur la ligne de contrôle qui sépare le Pakistan de l'Inde dans la région du Cachemire. Le Cachemire, qui est le point de discorde entre le Pakistan et l'Inde depuis la partition des deux pays en 1947. Ce sera justement l'une des questions sur la table des négociations qui vont suivre entre New Delhi et Islamabad. Parmi les autres sujets sensibles, il y a le traité des eaux de l'Indus, signé en 1960 entre l'Inde et le Pakistan et qui partage les eaux du fleuve entre les deux voisins. L'Inde l'a suspendu après l'attaque du 22 avril. Mesure punitive qualifiée d'acte de guerre par le Pakistan, dont l'économie dépend largement de cette source d'eau. Les directeurs généraux des opérations militaires indiens et pakistanais en contact direct pour passer l'accord de cessez-le-feu doivent à nouveau se parler demain, lundi 12 mai. Sonia Ghezali, Islamabad, RFI.
Et en parallèle, Donald Trump s'est dit très fier que l'Inde et le Pakistan aient accepté de cesser leurs hostilités et annoncé également que les États-Unis allaient faire croître leurs échanges avec les deux pays.
Les États-Unis qui entament une nouvelle série de pourparlers avec Téhéran sur le programme nucléaire iranien.
Il démarre aujourd'hui à Oman après avoir été reporté le week-end dernier à Rome, officiellement pour des raisons logistiques. La reprise de ces négociations, elle intervient quelques jours avant la visite de Donald Trump au Moyen-Orient, Pierre-Olivier.
C'est la quatrième session de discussion entre les États-Unis et l'Iran sur la non-prolifération nucléaire. Des négociations qui progressent, selon le chef de la diplomatie iranienne, alors que les deux pays n'entretiennent plus de relations diplomatiques depuis 45 ans. Mais la visite, dans quelques jours, de Donald Trump en Arabie Saoudite, au Qatar et aux Émirats Arabes Unis pourrait bien froisser Téhéran. Le président américain a en effet indiqué qu'il prendrait alors une décision sur la manière dont les États-Unis désigneront à l'avenir le Golfe, Golfe arabique, plutôt que Golfe persique, selon plusieurs médias américains. américain. Donald Trump, lui, pourrait considérer cette visite comme une partie intégrante de sa stratégie de pression maximale qu'il souhaite mettre sur l'Iran pour l'obliger à négocier tout en menaçant de le bombarder en cas d'échec de la diplomatie. Ces pourparlers américano-iraniens visent à conclure un nouvel accord devant empêcher Téhéran de se doter de l'arme atomique contre une levée des sanctions qui paralysent son économie.
Les explications de Pierre-Olivier. À Gaza, le Hamas a diffusé une vidéo montrant deux otages israéliens en vie dans laquelle l'un d'eux appelle à mettre fin à la guerre. Si la vidéo n'est pas datée, en Israël, le Forum des familles, la plus grande association de proches d'otages, a identifié les deux hommes. Il s'agit de deux festivaliers qui ont été enlevés lors de l'attaque du 7 octobre 2023. Suite à cette diffusion, des manifestations ont de nouveau eu lieu hier soir en Israël pour réclamer un accord de trêve le plus large possible afin de mettre fin à la guerre et de permettre le retour de tous les otages. Michel Paul s'est rendu au rassemblement qui se tenait à Jérusalem, près de la résidence du Premier ministre israélien.
C'est une opportunité de libérer les otages qui ne se représentera plus, proclament les familles des Israéliens toujours captifs à Gaza. Le gouvernement israélien, souligne le forum, mène le pays tout droit à une défaite totale. Le professeur Haggai Levin est le chef de l'équipe médicale qui suit les familles d'otages.
Nous sommes à une croisée des chemins et c'est un moment critique. Nous devons choisir entre la voie de la vie et celle de la mort pour les otages. Notre gouvernement, qui est manipulé par une minorité extrémiste et messianique, se prépare à choisir le chemin de la mort.
Les familles d'otages accusent le gouvernement Netanyahou d'agir contre la volonté de la majorité des Israéliens. Pour le politologue Ilan Greizamer, il semble clair que le président américain se démarque ces derniers temps d'Israël.
Les 15 derniers jours ont été assez surprenants, dans la mesure où Trump, qui était décrit par beaucoup d'Israéliens comme un inconditionnel d'Israël, a l'air de prendre des mesures qui ne vont pas du tout dans le sens de ce que le gouvernement israélien voudrait.
Et en attendant, Israël poursuit les préparatifs pour une intensification de la guerre dans la bande de Gaza, une offensive qui a pour nom de code les chariots de Gédéon. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Et d'ailleurs, de nouvelles frappes israéliennes ont fait 8 morts aujourd'hui selon la défense civile palestinienne. Selon le ministère de la Santé du Hamas, le conflit a fait près de 53 000 morts au total dans la bande de Gaza, en majorité des civils. Les tensions entre les États-Unis et l'Afrique du Sud s'intensifient alors que les médias américains ont rapporté jeudi que l'administration de Donald Trump prévoit d'accueillir un groupe de Sud-Africains blancs aux États-Unis dès lundi prochain. Le vice-ministre sud-africain Alvin Botts et le vice-secrétaire d'État américain Christopher Orlando ont eu un entretien cordial ce vendredi, selon Ronald Lamola, ministre des Affaires étrangères de l'Afrique du Sud. Il a notamment clarifié la position de Pretoria sur ce dossier au micro de Zenat Ansrod.
Les relations entre l'Afrique du Sud et les États-Unis ont toujours été dynamiques et évolutives, avec évidemment beaucoup plus de défis depuis l'élection du président Trump, et surtout au vu du nombre de décrets exécutifs basés sur aucun fait ni vérité. En Afrique du Sud, les projets de loi sur l'expropriation sont des projets de loi qui visent à corriger les déséquilibres du passé afin de garantir une distribution équitable de toutes les ressources de notre pays. Cela se fait dans le respect de la Constitution, qui offre suffisamment de garanties contre tout usage arbitraire du pouvoir par l'exécutif ou par l'État. Donc c'est dans ce contexte que nous continuons à nous engager avec Washington sur un certain nombre de questions, car les relations entre l'Afrique du Sud et les États-Unis restent importantes. Washington est un partenaire commercial stratégique pour nous, le deuxième plus grand partenaire commercial de l'Afrique du Sud après la Chine. Il reste des défis à relever, mais nous continuons à nous engager au niveau diplomatique.
Ronald Lamola, ministre des Affaires étrangères de l'Afrique du Sud, il était au micro de Zenat Ansrod.
À une semaine des élections présidentielles, la droite conservatrice polonaise est descendue dans les rues de Varsovie pour manifester contre l'immigration.
Ces derniers mois, une opération de désinformation assurant que l'Allemagne se débarrassait de ses migrants illégaux en les repoussant à la frontière polonaise s'est répandue sur les réseaux sociaux. Une fausse information qui vise notamment à discréditer Rafał Trzaskowski, le candidat de la majorité. Sur place, Adrien Sarla a rencontré ces manifestants qui feront de l'immigration leur première préoccupation pour guider leur vote dimanche prochain.
Ici, c'est la Pologne et on n'est pas d'accord. Son drapeau rouge et blanc à la main, Eva se dépêche de rejoindre la foule de gens massés devant l'estrade. Cette retraitée de 62 ans a fait 4h30 de voiture, spécialement pour venir manifester contre l'immigration, même si elle dit ne rien avoir contre les réfugiés ukrainiens.
Ils habitent et ils travaillent ici, ce sont des gens normaux. Mais les réfugiés qui arrivent de l'Ouest viennent d'Afrique. Ils sont dangereux, ils ne travaillent pas et ce sont des meurtriers. Moi, je vote pour Navrotsky, le candidat du PiS, et je sais qu'il ne les laissera pas entrer.
Des propos racistes qui résument bien l'ambiance de la campagne présidentielle gangrénée par les fausses informations sur la question migratoire. Même le candidat de la majorité, pourtant réputé libéral, a fini par durcir son discours à l'égard des réfugiés ces derniers mois, mais pas assez pour convaincre Piotr.
Ils soutiennent le pacte migratoire européen, même s'ils font croire qu'ils sont contre. On sait comment ça a fini en Europe de l'Ouest. On sait bien qu'on n'y vit plus en sécurité aujourd'hui.
À 8 jours du premier tour, le maire de Varsovie, Rafał Trzaskowski, est donné favori, avec 33% des intentions de vote. Adrien Sarlat, Varsovie, RFI.
Du foot espagnol à présent, Sophie. 4e classico de la saison entre le FC Barcelone et le Real Madrid.
Oui, c'est un match qui définira la fin de saison en Espagne pour le compte de la 35e journée de Liga. Les Blaugranas possèdent 4 longueurs d'avance sur leur rival historique. Une victoire leur rassurerait quasiment le titre. Mais attention au contre-coup de l'élimination en demi-finale de Ligue des Champions face à l'Inter Milan. En face, le Real veut se consoler après une saison plutôt moyenne. Son entraîneur, Carlo Ancelotti, pourrait quitter le navire en fin de saison. Malgré tout, le coach italien restera attaché au club madrilène. Écoutez.
La luna de miel comme entrenador.
Ma lune de miel avec le Real en tant qu'entraîneur est finie. Je ne sais pas. Je pense au contraire qu'elle se poursuit. C'est comme dans toute relation amoureuse. Il y a beaucoup de passion au début, mais quand ça se termine, plein de facteurs vous affectent. Ma lune de miel avec le Real durera jusqu'au dernier jour de ma vie. Xavi Alonso pour me remplacer. J'ai lu qu'il quitte le Bayern Leverkusen. Il y a fait un travail formidable. Toutes les portes sont ouvertes car il a prouvé qu'il faisait partie des meilleurs entraîneurs au monde.
L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti. Du foot toujours, Monaco et Marseille qui se qualifient pour la Ligue des Champions. Le club monégasque a remporté un match crucial, c'était contre Lyon. Victoire de 2-0 qui lui vaut son billet pour la prochaine compétition européenne. Et puis malgré les doutes, l'Olympique de Marseille est également parvenu à se qualifier. Hier soir, les Marseillais se sont imposés 3-1 contre le Havre.
Et c'était le journal de Sophie Pouzrat. Merci beaucoup Sophie, à tout à l'heure.
RFI Matin,
troisième et dernière heure, dans un peu moins de 20 minutes. Un nouveau point sur l'info africaine. D'ici là, est-ce de l'héroïsme ou de l'inconscience? Jusqu'où va la science nous parle de ce remède à la morsure des serpents les plus venimeux, développé en ce moment grâce à un homme qui s'est laissé mordre plus de 200 fois pour cultiver ses anticorps. Caroline Lachowski nous raconte tout ça dans quelques instants. D'ici 7h30, temps universel, on parle aussi de politique en France. Emmanuel Macron et François Bayrou, duel ou duo? C'est la question qu'on se pose avec Valérie Gass. Mais tout de suite, c'est la revue de presse. Avec vous, Catherine Potel, autour des hebdomadaires et des journaux du dimanche. À la une, le Premier ministre François Bayrou face à une échéance cruciale.
François Bayrou, au pied du mur de l'affaire Betaram, titre le Parisien dimanche. Le Premier ministre a préparé en cercle restreint un rendez-vous crucial, son audition mercredi par la commission d'enquête sur les violences dans les établissements scolaires. L'enjeu est considérable, remarque le journal. Betaram, c'est cette école privée catholique qui fait face à de nombreuses plaintes et accusations pour violences et agressions sexuelles à partir des années 80 et 90. Le Parisien dimanche rappelle le contexte. François Bayrou était ministre de l'Éducation nationale entre 1993 et 97 et parent d'élèves scolarisés dans cet établissement où son épouse enseignait le catéchisme. Il aura d'autant moins le droit à l'erreur qu'il s'exprimera sous serment. Le Nouvel Obs, qui consacre sa une à l'affaire Betaram et au Premier ministre, dit la même chose mais plus crûment. Ce sera pour François Bayrou l'occasion de livrer ses vérités. Espérons qu'il ait la décence de la saisir alors qu'il s'est jusqu'ici enferré dans le déni et le mensonge. Le 11 février à l'Assemblée nationale, rappelle le Parisien dimanche, François Bayrou a d'abord nié en bloc, assurant n'être au courant de rien avant de changer de version par la suite.
Le Nouvel Obs, de son côté, a décidé d'élargir le sujet.
Pour l'hebdomadaire, l'affaire Betaram est une bombe à fragmentation. Elle nous oblige, nous dit-on, à regarder en face le caractère endémique des violences faites aux enfants dans les familles, mais pas seulement, car l'école n'est pas toujours un sanctuaire pour nos enfants. Et le Nouvel Obs dresse ce constat. L'enseignement catholique est au cœur des dernières révélations. Pratique déviante, faiblesse des contrôles de l'État, voire protection de l'institution par des élites qui en sont souvent issues. L'hebdomadaire parle donc de bombe à fragmentation et précise encore que depuis février, de nouveaux cas d'établissements déviants apparaissent chaque semaine, des plaintes s'accumulent, pas moins de 200 pour Betaram, et des affaires tues pendant des décennies font la une des journaux.
De son côté, la Tribune Dimanche a rencontré l'une des victimes de Betaram, leur porte-parole, Alain Esquer.
Il est l'auteur du livre Le silence de Betaram et il est, nous dit le journal, le visage de tous ceux qui ont souffert dans ce qui s'apparente aujourd'hui à l'un des plus grands scandales de pédophilie de l'histoire de l'éducation française. C'est lui qui a recueilli sur un groupe Facebook des dizaines de témoignages. Aux appels d'anciens élèves, raconte la Tribune Dimanche, succèdent ceux de la presse régionale qui commencent à relater le scandale. Dans les familles, chacun découvre ce que son père, frère, mari a vécu dans son enfance sans avoir jamais osé le raconter. Malgré ces témoignages, aucun responsable politique local, tout bord confondu, ne décroche son téléphone. On est seul, tout le monde s'en fout, constate Alain Esquer. Jusqu'à ce que le Premier ministre lui-même décroche son téléphone. Je le sens dépassé, dit-il. Il est sincère, mais il est le reflet d'une époque qui ne comprend pas. Pour lui, c'est une histoire de gifles et de punitions qui ne font pas de mal aux enfants.
Dans la presse hebdo également, cette semaine, Catherine, un long reportage du Point sur la République démocratique du Congo.
Et plus précisément dans le Nord Kivu, les envoyés spéciaux du magazine, Guillaume Perrier et Vivien Latour, ont rencontré des creuseurs des mines de Roubaïa, sommairement équipés, nous dit-on. Ils descendent en escalier armés de pioches. Ils font ensuite remonter le sable et le minerai en se passant des sacs de main en main. Les visages sont juvéniles, les éboulements sont leur hantise. Un travail harassant payé 5 dollars par jour. La région est riche en minerais et notamment en coltan et elle est depuis longtemps la cible de nombreuses convoitises qui se concrétisent par des affrontements armés. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, rappelle le Point, accuse le M23 de chercher à s'approprier les ressources du Kivu. 150 tonnes de coltan seraient selon lui détournées vers le Rwanda chaque mois. Kigali dément.
Et à Goma, le Point a rencontré Corneille Nangaa, le chef de l'Alliance Fleuve Congo, coalition formée autour du M23.
Il incarne le nouveau pouvoir, explique le magazine, et lui aussi accuse. Il avait acquis des titres miniers sur le gisement d'or de Zanikodo en Ituri. Des proches du président Tshisekedi l'en auraient spolié après 2021, explique le Point, qui décrit ainsi la situation depuis la fin des combats. Goma reprend vie, le port sur le lac Kivu retrouve son agitation vespérale. Mais les combats de la fin janvier ont laissé des traces. Les violences ont fait entre 3000 et 8000 morts, selon les estimations. La sérénité n'est pas vraiment revenue à l'ordre du jour. Certains habitants se plaignent d'être raquettés par des membres de l'armée gouvernementale en civil. La guerre n'est pas terminée, regrette l'un de ses habitants.
Merci Catherine Potet, bonne journée.
RFI à Paris, 89 FM.
L'actualité politique en France, comme chaque dimanche, et cette semaine, coup de projecteur sur le couple exécutif, François Bayrou et Emmanuel Macron. Bonjour Valérie Gasse.
Bonjour Julien.
La cote de popularité du Premier ministre est au plus bas, alors que celle du président de la République remonte un peu. Qu'est-ce que cela veut dire de cet attelage politique, finalement, duo ou duel?
Eh bien, si l'on regarde les dernières initiatives du Premier ministre et du Président, on a un peu l'impression d'une course à l'échalote entre eux pour en appeler aux Français. À peine Emmanuel Macron avait-il évoqué il y a quelques jours sa volonté d'organiser une convention citoyenne sur les rythmes scolaires que François Bayrou est sorti du bois pour demander un référendum sur un plan budgétaire, lançant une balle dans le jardin du chef de l'État auquel revient la prérogative de convoquer une telle consultation. En guise de réponse, Emmanuel Macron a annoncé annoncé qu'il allait s'exprimer la semaine prochaine dans une émission télévisée pour évoquer notamment ses pistes de référendum, parmi lesquelles ne figurent pas les questions budgétaires. Comme si les deux jouaient une partition en polyphonie, ni tout à fait duel, ni vraiment duo. Une ministre résume avec délicatesse cette dissonance au sein du couple exécutif. On a des voix nuancées. Est-ce incompatible et contradictoire? Je ne sais pas. Quand une autre estime que cet épisode est révélateur en déclarant « Jusqu'à présent, on n'avait pas le sentiment de cette compétition ».
Qu'est-ce que ça révèle?
Eh bien d'abord que chacun poursuit ses objectifs politiques propres. François Bayrou a envie de rester Premier ministre le plus longtemps possible. Il a déjà réussi à durer plus que Michel Barnier à Matignon, c'était son premier objectif. Il cherche maintenant comment passer l'écueil du prochain budget en prenant les Français à témoin de ses efforts. Mais sa méthode jugée parfois brouillonne, sa communication à l'instinct lui joue des tours et le font chuter dans les sondages. Une ministre juge d'ailleurs que cela donne une raison à Emmanuel Macron de se réjouir puisqu'il a un Premier ministre grâce auquel il est populaire.
C'est comme un jeu de balancier entre François Bayrou et Emmanuel Macron?
Un peu. Le chef de l'État a en tout cas identifié qu'il avait un créneau pour se réinvestir dans le champ national. Lui qui avait été mis à la diète de politique intérieure depuis la dissolution. Emmanuel Macron n'a jamais vraiment renoncé à jouer un rôle et veut valoriser son bilan. Alors il cherche comment continuer à faire bouger les choses en misant sur le référendum dans l'espoir de retisser un lien avec les Français. Lien que François Bayrou, lui, n'a pas encore réussi à nouer.
Valérie Gasse, l'actualité politique. Merci beaucoup.
RFI Matin.
Jusqu'où va la science? Bonjour Caroline Lachowski.
Bonjour Julien.
Un antidote universel contre les morsures des serpents les plus venimeux de la planète est actuellement testé par des chercheurs californiens à partir des anticorps développés par un homme ayant volontairement subi plus de 200 morsures de serpents pour développer une immunité hors norme au service de la recherche.
Oui, on peut saluer le courage ou la folie de Tim Fried. Ce passionné de serpents s'est exposé plus de 800 fois à des venins de serpents mortels, dont 200 fois par morsure directe. Son but étant de pousser son système immunitaire à produire le plus d'anticorps possible contre le plus grand nombre de toxines. Tim Fried s'est volontairement fait mordre par 16 espèces de serpents, parmi les plus venimeux de la planète, cobra, mambas, taipan, et il a effectivement, à ses risques et périls, développer une immunité hors du commun. L'homme le plus envenimé au monde est aujourd'hui directeur de l'herpétologie à Centivax. Ses anticorps ont permis l'élaboration d'un antivenin efficace contre 19 espèces de serpents parmi les plus venimeux. Un vaccin encore expérimental, testé avec succès sur des souris et bientôt sur des chiens victimes de morsures en Australie. Et ce n'est qu'un début, car Centivax travaille désormais toujours avec et grâce aux anticorps de Tim Fried sur un deuxième vaccin antivenin, efficace celui-là contre une autre famille de serpents, les vipéridés, contre lesquels s'est aussi immunisé Tim Fried, ce qui devrait permettre, en combinant les deux, de concevoir un unique et véritable vaccin universel protégeant contre les morsures de tous les serpents venimeux.
Car rappelons-le Caroline, les envenimations sont un vrai fléau, un problème de santé publique négligé selon l'OMS.
Il faut savoir que les envenimations tuent plus de 100 000 personnes chaque année, laissant quelques 300 000 personnes handicapées ou amputées, principalement dans les pays tropicaux à faible revenu, en Afrique, en Asie ou en Amérique latine. Jusqu'à présent, le seul antidote restait l'administration d'un sérum antivenin sur le même principe que celui inventé en 1894 par le français Albert Calmette. À partir des anticorps d'un animal, cheval ou mouton, préalablement immunisé, ce qui a pas mal d'inconvénients. Il faut identifier précisément le serpent en cause, car ses antivenins sont spécifiques selon les espèces et de conservation fragiles. Et il y a aussi des risques d'allergie aux anticorps animaux. Or, une seule dose du futur vaccin universel à base d'anticorps humains, donc très peu allergène, permettrait de neutraliser pratiquement tous les venins connus. En tout cas, un très large spectre des nombreuses toxines inoculées par les différentes espèces de serpents. De plus, ce vaccin, décrit dans la revue Cell, est élaboré à partir d'un petit nombre d'éléments. aliments. Ils pourraient être lyophilisés et donc conservés ailleurs que dans un réfrigérateur pour un prix bien inférieur aux antivenins traditionnels. Plus efficace, moins cher, sans effet secondaire et plus facile à déployer dans les environnements les plus austères, résume l'immunologiste Jacob Granville. Tandis que dans la revue scientifique Nature, un autre éminent spécialiste des morsures de serpents venimeux, Jean-Philippe Chipot de l'IRD, rappelle que le principal défi dans la prise en charge des morsures de serpents n'est pas l'efficacité des traitements, mais leur administration souvent tardive. Nous devons réfléchir, explique-t-il, à des moyens de rapprocher les antivenins des zones de morsure et de convaincre les patients de se rendre à l'hôpital plus rapidement. C'est précisément tout l'enjeu de la lutte contre l'envenimation. J'ajoute aussi que l'exemple de Tim Fried n'est absolument pas à suivre, même pour la science. Sous peine de mort, ne s'immunise pas qui veut.
Jusqu'où va la science ? Merci Caroline. Lachowski. Bientôt 7h30, en temps universel et avant le prochain journal, notre reportage culture aujourd'hui, à quelques jours du début du Festival de Cannes et avec un habitué de ce rendez-vous, le réalisateur américain Wes Anderson, auteur singulier de l'industrie hollywoodienne, connu pour ses films oniriques au casting parsemé de stars comme Tom Hanks ou Scarlett Johansson, il sera de nouveau à Cannes cette année avec un nouveau long métrage. En lice pour la Palme d'Or, mais Wes Anderson s'expose aussi à Paris. La Cinémathèque française lui consacre une grande rétrospective pour mieux comprendre ses thèmes de prédilection et ses méthodes de travail. Sophie Torlotin.
Attention, c'est parti.
Wes Anderson a tout gardé, ou presque, de ses carnets préparatoires, objets, costumes, éléments de décor, depuis son premier long-métrage Bottle Rocket en 1994.
On sait à quel point son cinéma est très très pensé en amont, c'est le contraire du cinéaste d'improvisation.
Mathieu Orléans, le commissaire de l'exposition.
Ça on le voit très bien avec les storyboards, et on en a un dès Bottle Rocket, son premier film, donc un storyboard qui montre que finalement tout le film était dans sa tête avant même qu'il arrive sur un plateau, et ça sera d'autant plus le cas de films où il doit recréer tous les décors, parce que, comme le Grand Budapest, ça se passe dans l'Europe centrale des années 30, donc on est obligé de tout anticiper.
Pourquoi souhaites-tu être Lobby Boy ?
Qui ne le souhaite pas ? Au Grand Budapest, monsieur.
The Grand Budapest Hotel, un film de 2014, est un bon exemple du style Wes Anderson. Une troupe éblouissante d'acteurs comme William Dafoe, Tilda Swinton, Ralph Fiennes, Jason Schwartzman ou Adrien Brody. Des histoires qui s'enchassent, une atmosphère loufoque, une multitude de détails. Un univers comme une maison de poupées à l'image de la maquette de l'hôtel présentée dans l'exposition.
Parce qu'en fait, ils ne pouvaient pas recréer un hôtel à cette envergure. Ils ont transformé un centre commercial désaffecté en Allemagne pour en faire l'intérieur, mais il n'y avait pas de quoi faire l'extérieur. Et finalement, ils ont assumé l'artifice de faire une maquette qui servirait d'extérieur et qu'on voit ici. Bizarrement, ils ne tournent pas beaucoup en studio. Et le reste du temps, ils préfèrent aller sur le terrain, en Inde, dans une île à Rhode Island. Et il va recréer un monde, mais à partir de l'existence. C'est un peu tous les paradoxes de Wes Anderson. Plutôt que de faire un cinéma complètement de studio et complètement artificiel, il crée l'artifice à l'intérieur du monde réel. Et donc c'est toujours cette ambiguïté entre comédie, mélancolie, entre intérieur, extérieur, et là aussi entre vrai et faux. Il y a toujours les deux qui existent.
Le Belafonte, le vaisseau mère de l'équipe Zissou, un groupe de spécialistes en plongée sous-marine.
Cette exposition permet donc de pénétrer film par film dans la fabrique d'une œuvre foisonnante, Mathieu Orléans.
C'est plus que jamais l'occasion de voir non seulement des objets cultes, je ne pensais pas à la tenue de Zizou dans La Vie Aquatique, ça, les gens l'ont repéré, les gens s'en souviennent.
Je vais te commander un bonnet rouge et un slip de bain.
Mais aussi beaucoup de choses qui passent presque inaperçues dans le plan, qui vont très vite. Et l'exposition, c'est comme un arrêt sur image sur tous ces petits trésors fabriqués par des gens qui ont mis beaucoup d'eux.
Ce qui est encore le cas avec le nouveau long métrage de Wes Anderson, The Phoenician Scheme, qui sortira en salle juste après le Festival de Cannes.
Sophie Torlotin, une exposition à découvrir jusqu'au 27 juillet à la Cinémathèque française à Paris.
L'atelier des médias, Steven Jambeau.
Nous sommes progressivement entrés dans l'ère de la post-vérité, une ère où les croyances sont plus importantes que la vérité, où la subjectivité supplante l'objectivité. C'est ce qu'écrit mon invité qui pointe le rôle des algorithmes qui pullulent sur Internet et les réseaux sociaux. L'économiste Michael Lenné est mon invité tout à l'heure à 11h10 TU sur RFI et dès maintenant en podcast pour l'Atelier des médias.
Tout à l'heure sur RFI, idée Pierre-Edouard Deldic.
Avec son concept d'hybridation, la philosophe Gabrielle Alpern veut que sa discipline change le monde concrètement. Nous en parlons ensemble.
Pour pouvoir comprendre pleinement un certain nombre d'enjeux, il ne faut pas rester dans les habits du philosophe, en tout cas dans les habits que l'on prétend être ceux du philosophe. Si on veut penser le monde avec justesse, il faut aller dans le monde.
Idée proposée par Pierre-Edouard Deldic, tous les dimanches à 19h10 TU sur RFI.
Écoutez RFI en direct et en podcast sur l'application RFI Pure Radio.
Conçue comme une plateforme d'écoute, Pure Radio offre un accès à tous les contenus de RFI en français et dans 16 autres langues. Elle vous permet de rester au plus proche de l'actualité et de retrouver facilement les podcasts de vos émissions préférées. Vous pouvez aussi télécharger un podcast pour le réécouter, même hors connexion.
Avec son appli Pure Radio,
RFI est toujours avec vous.
Toujours avec vous.